Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
D'autres. Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Luc Tassé est avec nous. Il va traiter de la politique internationale, américaine, européenne. C'est pas mal ce qu'il fait dans la vie, M. Tassé. Bonjour.
Oh, je fais quelques autres choses.
Oui.
Bonjour, Benoît.
Comme quoi?
Ben, je suis consultant pour une compagnie qui s'appelle Alpha Fix Capital. Je joue en géopolitique. Je fais quoi encore? J'enseigne à l'université aussi.
Sais-tu, à un moment donné, on s'était parlé de la façon de négocier avec les Chinois, là. Est-ce que, oui. T'as-tu trouvé une job là-dedans?
Parce que non, mais attends, je suis pas intéressé non plus.
Ça serait utile, ça. Moi, je t'appellerais, là, à savoir que j'ai un contrat avec la Chine, je t'appellerais pour savoir comment négocier avec ces gens-là.
Pas sûr que je puisse me rendre en sol chinois avec ce que je dis sur le gouvernement chinois, je t'avoue.
C'est non, hein. Surtout si tu veux revenir.
Ah oui, c'est ça.
Y aller, c'est pas un trouble.
Y aller, ça sera pas un problème, t'as raison. Ce serait revenir.
Ce serait revenir le problème. Bon, l'horreur vendredi, encore une fois en France, encore une fois des crinqués religieux.
Oui.
Islamistes.
C'est ça. Et c'est un professeur qui avait quoi, 47 ans, mm-hmm. Samuel Paty, qui... Qui enseignait à des enfants de 13 ans dans son cours d'histoire-géographie. Il donnait, figure-toi, un cours sur la liberté d'expression. Et il a montré, entre autres choses, des portraits, des caricatures de Mahomet. Tu sais, comme il y en a eu partout, en disant, ben voilà, il y a eu ce problème avec Charlie Hebdo pour ces caricatures-ci. Il était très, très aimé de ses élèves. Et il y a un gars qui est un immigrant tchétchène, qui a 18 ans, qui habitait à 100 km de là, ou quelque chose comme ça, qui est descendu en banlieue de Paris, et qui avec un grand couteau de 12 pouces, et qui lui a coupé la tête dans le métro. Mmh. L'horreur. Mmh. Parce qu'il disait qu'il avait insulté Mahomet, etc., dégradé Mahomet. Mais tu regardes ça, puis tu dis, mais non, encore. Et évidemment, cet imbécile s'imagine qu'il va se rendre directement au paradis ensuite, tu sais, comme s'il y avait une vie après la mort, je suis désolé, il n'y en a pas. non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut commencer à dire les choses. Tu vois, j'ai pas dit ça pendant longtemps, par respect pour les gens qui souffrent, par respect pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espoir dans la vie, puis je parlais pas de ça. Mais à un moment donné, pour l'ensemble de la population, quand on voit qu'il y a des gens qui ont ce genre de croyances, ouais. Malheureusement, il faut commencer à s'attaquer aux croyances puis dire les choses comme elles sont.
Et quand tu commets ce genre d'horreur-là, là, mon petit minou, je vais t'informer d'une chose, il n'y a pas 72 vierges qui t'attendent. Non. Le mieux que tu vas avoir, c'est une vierge de 72 ans.
c'est
tout ce que tu risques d'avoir. Puis
elle sera
pas fine parce que tu as tué quelqu'un pour te rendre là.
Si tu y crois, même pour les gens qui y croient, tu sais, qui s'imaginent. Alors, selon eux, leur famille tout en entier va aller au paradis. Tu sais, il faut commencer à s'attaquer à ces croyances-là, qui sont des croyances moyenâgeuses. C'est pas du tout ce que la science montre.
On le fait pas au Québec, là. On le dit pas, là. Là, je viens de parler à Nadiane Mabrouk, qui enseigne à l'université. Mais il y a des profs qui sont intimidés, là, au Québec. Il y a des profs qui subissent de la pression et qui pratiquent de l'autocensure pour pas avoir de problème avec les crinqués religieux qu'on laisse aller un peu partout.
Pas seulement les crinqués religieux, regarde à l'Université d'Ottawa. Prof qui a dit le mot nègre dans un cours. Mm. Parce que supposément, si t'es de race blanche, t'as pas le droit de dire ce mot-là. C'est de la censure
dans le cadre
du racisme.
Mais pas sous forme d'insulte, là, dans un cadre pédagogique. Là,
pour expliquer. Bien évidemment, elle avait insulté des gens en les traitant comme ça de nègre, là, ça aurait été une autre chose. Encore que, en Haïti, semble-t-il, ce mot-là est employé, puis ça veut dire une bonne personne, ça veut dire le bonhomme, tu sais. Je pourrais dire, Benoît, t'es un bon nègre en Haïti. Ça se dit, ça, semble-t-il. Mais tu sais, écoute, c'est de la censure, et cette censure, donc, a des origines qui sont maintenant religieuses en France. On veut censurer le discours, on veut empêcher les gens de parler, de dire ce qui est, parce qu'effectivement, côté religieux ont très peur d'un discours logique, argumenté et rationnel. Mmh. Et donc, ils tuent les gens qui tiennent ce genre de discours contre leur religion. Puis c'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. On parle évidemment des islamistes, on parle des fanatiques, et c'est ce qui s'est produit. Alors le gouvernement français a quand même réagi fortement. Il a lancé 80 enquêtes avec cet assassinat-là. Il y a des associations qui, tu sais, des associations qui ont excusé l'assassin, qui ont essayé de condamner la liberté d'expression. Alors non, ils sont rentrés là. On s'attend à ce qu'il y ait une cinquantaine d'associations en France qui soient dissoutes, dont des associations, ça va te faire plaisir, dites de lutte contre l'islamophobie, mais qui en réalité sont des gens qui font de la promotion de l'islamisme. Ouais. Alors il y a déjà des dizaines de personnes qui ont été arrêtées, dont le père d'une élève qui avait lancé sur Internet une campagne contre ce professeur.
Une fatwa,
imagine. Ouais. Et qui avait aussi lancé une campagne contre l'islamophobie. En tout, il y a 213 étrangers, pour le moment, soupçonnés de propager l'islamisme, qui vont être déportés, ce qui est très bien. Puis je pense qu'il y a des manifestations de soutien aussi qui vont avoir lieu. Il y a déjà 6000 personnes qui se sont réunies à Paris pour la laïcité
et la liberté
d'expression.
Mais ça change.
C'est ça. Écoute, c'est la première fois que le gouvernement français fait ça. À ce point-là. À ce avant.
Non, mais il y a eu des manifestations de milliers de personnes à la suite des attentats le 13 novembre 2015 et aussi après Charlie Hebdo. Oui. Ça n'a rien changé.
Oui, parce qu'on refuse de. D'abord, les gouvernements ne sont pas cohérents. Comment veux-tu à la fois condamner ce qui s'est fait là, puis tendre la main à l'Arabie Saoudite, qui est un des propagateurs de l'islamisme dans le monde? C'est incohérent. Comment veux-tu faire ça? Et ça pose un problème. Et il y a aussi des gens qui défendent les privilèges des religieux dans nos sociétés. Mmh. Et ça pose un problème aussi. Il faut, encore une fois, on n'ose pas rentrer dans l'argumentation religieuse. On n'ose pas dire aux gens, écoutez, ça n'existe pas. Non, c'était pas comme ça. Non, ce qui s'est passé, c'est ceci et cela. On n'ose pas leur dire. Alors forcément, ils gagnent du terrain. Et il y a vraiment un problème à mener dans nos sociétés maintenant pour la liberté d'expression. Et malheureusement, contre le fondamentalisme religieux, c'est pas juste le fondamentalisme religieux musulman, il y en a ailleurs, on le voit aux États-Unis. Tu sais, quand t'as une secte, un QAnon, c'est une secte parce que c'est de nature religieuse, qui croit à des choses incroyables, il y a une lutte à mener contre l'irrationalité et les croyances de tout acabit. On est obligé de faire ça parce que sinon on va se faire des gens qui sont rationnels, qui essaient d'argumenter. On va se faire manger c'est en train d'arriver.
Mais il faut voir aussi le courage des élus politiques. Là, je nous ramène au Bataclan là, en novembre 2015. Il y a eu 413 blessés, 130 morts. Puis écoute la réaction, je m'en souviens tellement de Justin Trudeau à l'annonce de ce carnage.
Les attristés. Des attaques terroristes en France. Nous avons offert toute l'aide du gouvernement canadien au gouvernement français, en plus de nos sympathies et nos condoléances. Je viens de parler à mes conseillers en affaires de sécurité nationale.
C'est ça, c'est tout ce qu'il avait à dire. Puis là, je l'ai pas entendu sur cette horreur. Décapiter un professeur d'histoire, c'est quand même le bout.
Je l'ai pas non plus entendu sur la liberté académique à l'Université d'Ottawa.
Non plus.
Je l'ai pas entendu là-dessus.
Non plus.
Et j'aimerais bien, moi, entendre nos élus défendre la liberté académique. J'aimerais bien entendre ces gens-là aussi dire non, ça suffit, ce fondamentalisme religieux, ces croyances moyenâgeuses, ça suffit. Mmh. Mais ils ont peur de le faire. Et sais-tu quoi? Sais-tu qui se retrouve dans les campagnes électorales, souvent, des élus? Des fondamentalistes religieux qui sont dans les locaux de campagne électorale. Alors, c'est aussi notre faute un peu à nous, parce que c'est nous tous, les citoyens, qui devrions participer davantage aux campagnes électorales aussi.
Mmh. Bon, un mot sur Donald Trump, ton préféré?
Un de mes préférés. Sur Donald Trump, qui va très mal ces temps-ci. Il y a des nouvelles statistiques qui viennent de sortir, des nouveaux sondages dans le Bible Belt. Le Rusty Belt, c'est-à-dire la ceinture rouillée. Donc, les endroits où on s'est industrialisé au départ aux États-Unis, on part de l'Ohio, ça descend jusqu'à la Pennsylvanie. Et donc, dans ces États qui ont fortement fortement appuyé Donald Trump aux dernières élections, on se rend compte que ça va mal pour Donald Trump et c'est beaucoup toute la gestion du coronavirus qui est en cause ici. Les gens pensent à 50% que Biden ferait est le meilleur pour lutter contre le coronavirus et à 37% que c'est Trump. Et ça se reflète, ça, dans les intentions de vote. En général, dans ces États-là, donc, le vote pour Biden monte jusqu'à 49%, tandis que Trump est à 43%. C'est moins qu'au niveau national, mais c'est un mouvement très, très important en faveur de Biden dans ces États qui ont voté majoritairement pour Trump en général. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder. Mais je suis obligé de mettre un bémol tout de suite et de dire, attention, c'est le collège électoral qui décide à la fin. Mmh. Et sais-tu quoi, à 3 semaines des élections, au même moment où on était en 2016, ben, c'était Hillary Clinton qui remportait le vote électoral du collège électoral, d'après ce qu'on voyait.
Ouais.
Alors, faut faire très attention avec nos pronostics là-dessus. Mais disons qu'on a l'impression que Donald Trump est en plus mauvaise position en 2020 qu'il l'était en 2016.
Bon, c'est quoi cet accord militaire entre le Japon et le Vietnam?
C'est un accord qui est très important parce que c'est deux pays qui s'aiment pas beaucoup historiquement. Mmh. Et le Japon a décidé de fournir au Vietnam des équipements et de la technologie militaire. Et donc, le premier ministre, Yoshihide Suga, qui est le nouveau premier ministre du Japon, a été, pour son premier voyage, donc, au Vietnam. Ça aussi, c'est un signe assez important. Ce qui semble, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se servir du Vietnam pour contrer l'influence de la Chine dans la région. Et évidemment, les deux dirigeants vietnamiens et dirigeants japonais vont dire, mais non, en fait, on veut une résolution pacifique des conflits dans la région, etc. Mais le fond du problème, c'est que la Chine est de plus en plus menaçante depuis plusieurs années dans la région. En particulier, le gouvernement de Xi Jinping est de plus en plus agressif. Et les pays en Asie de l'Est en particulier, sont en train de changer leur politique à l'égard de la Chine, sont en train de se regrouper militairement d'une façon qu'on n'avait jamais vue auparavant. Si tu te souviens, je t'avais parlé la semaine dernière, je t'avais dit du Japon, des États-Unis, de l'Australie et de l'Inde surtout, qui s'étaient alliés militairement dans la région. Puis je t'avais dit, peut-être qu'on assiste à la création d'un nouvel OTAN dans la région. Ben regarde, ça c'est une nouvelle pièce à ajouter au dossier. Le Japon et le Vietnam viennent de s'entendre militairement, et ils s'entendent militairement contre la Chine, même si ce sera jamais dit comme ça. Donc, c'est un échec aussi, ça, pour toute la politique de Xi Jinping, et ça met, je dirais pas en péril, mais ça va faire grincer des dents en Chine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent à la politique de Xi Jinping en Chine maintenant.
Bon, ben, on s'arrête là-dessus, monsieur. Non, on s'arrête pas là-dessus, on fait une dernière. Les Thaïlandais qui défient leur gouvernement. J'ai vu Marie-Pierre ouvrir les yeux, dire, mon Dieu, j'ai pas Jean-Charles en ligne. On va prendre le temps.
On peut trouver d'autres sujets encore, s'il faut. Mais t'en fais pas.
Ouais, vas-y avec la Thaïlande.
Ben, avec la Thaïlande, ce qui se produit, c'est que le gouvernement, je t'ai expliqué aussi, on a parlé des manifestations anti-monarchistes qu'il y avait en Thaïlande. C'est interdit en Thaïlande, faut le rappeler, de parler contre la monarchie. Tu te fais emprisonner immédiatement si tu fais ça. Sauf que le nouveau roi, Rama X, il est vraiment pas aimé de la population. Les gens considèrent que c'est le parrain de la mafia en Thaïlande. Il passe le plus clair de son temps en Allemagne, dans des grands hôtels 5 étoiles, et il n'est pas en Thaïlande. Les gens l'aiment encore moins pour cette raison-là. Et donc, il est revenu récemment en Thaïlande, faire un petit tour quand même. Et donc, il y a eu énormément de manifestations anti-royalistes. Et le gouvernement, donc, il y a quelques jours, a dit que ça suffisait, que désormais, on ne pourrait plus être plus que 4 personnes dans la rue. Que sinon, ça serait au-delà de ça, ça serait considéré une manifestation. Les gens sont quand même descendus dans la rue. Ils continuent à descendre dans la rue. Il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées. Ça fait plusieurs journées, donc, il y a ces manifestations. Et en fait, les manifestants demandent la démission du Premier ministre, qui lui-même a été nommé après des élections très, très douteuses il y a un an. Il y a plusieurs leaders qui ont été arrêtés. Mais le mouvement rallie de plus en plus de personnes et ils ont trouvé un signe très intéressant pour rallier les gens. Ils lèvent les 3 doigts du milieu de la main en l'air. Et ça veut dire qu'ils sont pour une grande réforme politique, une grande réforme constitutionnelle contre la monarchie, parce que ce monarque, ben, il centralise beaucoup d'argent, il laisse pas les gens donc décider véritablement, et donc le génie est sorti de la bouteille ou de la lampe, si tu veux, on peut plus le remettre dedans, et il va y avoir de plus en plus de manifestations. Attends-toi à ce que la monarchie change en Thaïlande, ou alors elle va être complètement renversée.
Bon, ben, très bien. On se laisse là-dessus. Oubliez pas d'ajouter les deux doigts de chaque côté.
Les trois doigts.
Oui, c'est ça.
Trois doigts en l'air.
Non, mais les deux doigts autour de celui du centre pour pas, tu sais, faire de chicane. Mais, Loïc Tassé, merci. À demain.
Je vois pas à quoi tu penses. Salut.
Salut.